voici le journal. Demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Ce soir, de quoi qu'on va parler ?
Alors, on va commencer par une petite brève, une seule.
Ah ensuite... Non, mais normalement, ça on dit pas. C'est, du coup, tu dis direct la ligne suivante. Non, c'est toi qui l'as dit, parce qu'après, c'est moi qui vais faire l'info. Alors autrement, c'est
ça commence mal. Ça commence plutôt très mal.
Tu me fais chier. Alors, d'abord, on va parler d'Olivier Véran qui pète un plomb.
Ah, et puis après, on aura un petit. Il faut que ça se sache.
Ensuite, on parlera d'un autre massacre au Burkina Faso.
Et puis, ça sera la chronique de Laurent Delabouze.
Et on finira avec le camion info de notre reportrice.
Il y en a des brèves, alors ?
Oui.
Une.
Petit jeu. Je vous lis une petite déclaration d'un candidat à la dernière présidentielle. Et à la fin de celle-ci, je vous propose de deviner de qui il s'agit. Il faut durcir le mouvement. Quand on voit les moyens utilisés par le pouvoir, qu'ils soient institutionnels ou répressifs, nous, on doit se poser la question de quelle méthode on utilise. C'est une situation d'autodéfense. On défend nos vies. Les manifestations ne suffiront pas. À côté du blocage du pays par les grèves, se pose la question de comment la population prend en main sa propre lutte. Il faut surprendre, déstabiliser, que ce mouvement devienne incontrôlable. Et un des enjeux, c'est la jeunesse. Il faut des actions de blocage. Il faut utiliser des méthodes radicales. On est pour. La colère ne peut pas être toute gentille.
Alors, moi, j'ai l'impression que Charles Pasqua est revenu en politique.
Eh ben non, eh ben vous êtes tombé dans le panneau. En fait, c'était Philippe Poutou.
Oh bah alors écoutez, une fois n'est pas
alors,
coutume.
Olivier Véran n'a pas l'accent de Marseille.
Ouais, non, Olivier Véran n'a pas l'accent de Marseille, mais là, une fois n'est pas coutume, on va commencer ce qu'il y a du info. Pas une bonne poilade, c'est Olivier Véran sortant du Conseil des ministres aujourd'hui. Alors on peut se demander s'il a écrit son... C'est comme il est porte-parole du gouvernement, il fait un petit blabla après le Conseil des ministres. On peut se demander là s'il a écrit tout seul ou si c'est carrément un brainstorming du Conseil des ministres. Bref, il nous a fait un petit discours ce matin du top, vous allez voir. Donc c'est un truc sur la menace des syndicats de mettre la France à l'arrêt mardi prochain à l'occasion du mouvement contre la réforme des retraites. Mettre la France à l'arrêt, nous dit donc ce génial porte-parole du gouvernement, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette phrase ? Puisque n'importe qui écoute de temps en temps un Canu Info, en vrai, n'importe qui ouvre n'importe quel journal, sait que chaque jour où on laisse au gouvernement une bande de dingues mono-obsédés par le profit, on s'enfonce un peu plus dans une catastrophe écologique, sanitaire, agricole et humaine. Mais, attendez, Olivier Véran ne s'arrête pas là. Mettre la France à l'arrêt, figurez-vous, c'est aussi négliger la santé de nos enfants. Alors pourquoi ? Eh bien oui, c'est parce que Macron a décidé hier, comme ça, tout d'un coup, de faire vacciner tous les collégiens et collégiennes contre le papillomavirus. Vous voyez le tableau ? Alors bon, pourquoi il l'a décidé maintenant ? Peut-être que c'est parce qu'il s'est dit que comme ça, il y aurait des pro-vaccins et des anti-vax, et que les anti-vax, et que ça ferait un débat qui ferait parler d'autre chose que de la réforme des retraites. Alors en vrai, c'est sans doute une bonne idée de faire vacciner les mômes contre le papillomavirus avant qu'ils et elles commencent leur vie sexuelle, on ne va pas dire le contraire. Bon, c'est vrai par contre, la campagne de vaccination ne doit pas vraiment débuter la semaine prochaine, mais plutôt en septembre. Alors c'est vrai aussi, que ça soit la semaine prochaine ou en septembre, on ne sait pas si cette campagne de vaccination pourra avoir lieu tout court, vu qu'il y a à peu près plus d'infirmières scolaires, hein, et puis en plus qu'elles ont autre chose à foutre pour les quelques-unes qui restent, il y a à peu près une infirmière scolaire pour 10 établissements. Il y a 8024 infirmières scolaires en tout pour 59 650 écoles, collèges et lycées. Donc voilà, peut-être que ça va être compliqué cette campagne de vaccination. On ne sait pas vraiment si ça sera la faute de la CGT, des actions de la CGT la semaine prochaine. Mais ce n'est pas tout. Mettre la France à l'arrêt. Enfin, ça serait aussi rater le train du futur alors que notre... Non mais tu veux vraiment mettre de la musique pendant que je parle ? Bon d'accord, ça serait aussi rater le train du futur alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à la vitesse grand V, à en croire l'ancien ministre de la Santé. Ah bon, le réseau ferroviaire français est en train de vieillir à la vitesse grand V ? Eh ben, on est finalement bien content de la menace des syndicats si elle permet au moins que le gouvernement prenne conscience que ça vaut le coup d'investir dans les trains plutôt que dans les avions ou les bagnoles. Alors bizarrement, il n'a pas parlé d'apocalypse nucléaire, sans doute parce qu'il préfère que pas trop laisser planer l'idée que le nucléaire, si ça se trouve, ça pourrait être un truc dangereux. Bon voilà, la bonne nouvelle pour nous, au-delà du fait que la Macronie est vraiment au bout de sa santé mentale, c'est qu'on dirait bien que la menace des syndicats les fait vraiment, vraiment, vraiment flipper.
Canu Info. Du mercredi.
Bon bah c'est à moi, pas de jingle, fais ton truc. Putain, on est au bout du rouleau là, complet. Bonsoir. Avant de parler de la réforme, je vais vous parler de l'autre sujet qui affole la sphère médiatique. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de retraite pour les braves. En ce moment, les chaînes d'infos sont à fond sur l'affaire Palmade. Et les chaînes d'infos, comme à leur habitude, invitent des spécialistes pour débattre du sujet. Alors qui nous ont trouvés pour parler de l'affaire ? Le spécialiste des spécialistes, l'expert couteau suisse, puisqu'il pourrait parler aussi bien d'évasion fiscale que de harcèlement sexuel, de détournement de fonds aussi bien que de la politique des Républicains, ou encore de France-Afrique aussi bien que de fraude électorale. Alors vous avez une idée de qui est venu donner son avis sur le transfert en détention de Pierre Palmade ?
Palkany !
Eh oui, il est revenu, fidèle à lui-même, la symbiose parfaite entre Pablo Escobar et Pierre Richard, j'ai nommé Patrick Balkany. Alors voilà ce qu'il dit quand on lui demande ce qu'il pense du séjour en tôle effectif pour l'humoriste. Avec son franc-parler habituel, il déclare « Pierre Palmade n'a rien à foutre en prison ». Et sa solidarité anticarcérale pour les riches blancs et médiatiques ne s'arrête pas là. Il continue en disant « Avec un bracelet, vous pouvez pas sortir de l'endroit qui vous a été assigné, sinon ça... Et là, il s'arrête, petit regard de droite à gauche. Là, le gars se rappelle sûrement qu'il avait été condamné parce qu'il avait plus de 100 fois outrepassé le périmètre de son bracelet électronique et qu'il s'était défendu en disant que sa propriété était trop grande et qu'il avait dû dépasser les limites en allant à sa boîte aux lettres pour chercher son courrier. C'est sûrement ça qu'il se dit quand il bafouille et hésite un peu sur le plateau télé. Mais là, la petite lumière qu'on connaît bien et qui signifie « je vais le dire quand même », s'allume dans son œil et il continue. « Sinon, ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. J'en sais quelque chose. » Ah bon ? Donc on venait te chercher à ta boîte aux lettres ? J'arrête. Je vais pas faire le boulot des enquêteurs, surtout que je pense qu'il doit déjà y avoir une cellule Balkany dans la moitié des commissariats de Paris. Pendant ce temps-là, Macron était au salon de l'agriculture. On le sait, ce salon est connu pour ça. Il y a toujours des gens qui interpellent le président. On se rappelle du gars qui avait dit à Chirac « Bonjour connard » et Chirac qui avait répondu « Bonjour Chirac ». On se rappelle aussi du « Casse-toi pauvre con de Sarkozy », chacun son style. Cette fois, c'est un jeune qui a interpellé Macron. Et niveau insulte, c'était plutôt un petit joueur puisqu'il a lancé « Le plan de rénovation thermique, monsieur le président ». Et là, style Macron, le jeune est pris à la gorge, violemment tiré par les cheveux, brusquement placé au sol, puis traîné par terre jusqu'à la sortie. Une scène brutale pour la journaliste de France Info. Mais cet événement a été filmé et la vidéo est devenue virale, ce qui a obligé Macron à s'exprimer. Voilà sa déclaration. Déclaration qui représente bien le personnage. Je désapprouve toutes sortes de violences. Alors là, je répète la phrase pour être sûr que vous avez bien entendu de Macron. Hein. Je désapprouve toutes sortes de violences. Si Macron peut dire ça, après, ça va être quoi ? Toi, tu vas nous dire que tu désapprouves la connerie ? Bon, j'ai pas le temps ici de parler de Benalla, des expulsés, des éborgnés, etc. Pas besoin d'aller à une manif pour subir la violence du président. Bon, allez, maintenant, réforme des retraites et dommages collatéraux. Un petit coucou à Elisabeth Borne. Hein. Malgré les nouvelles politiques anti-gaspi, je pense qu'on ne pourra pas la récupérer, celle-là. Selon le baromètre Odoxa, 69% des personnes interrogées pensent qu'elle est une mauvaise Premier ministre. D'après Céline Brac, directrice générale d'Odoxa, depuis la création de l'Institut, une seule personnalité politique avait réussi à plonger autant. Manuel Valls. Hasta luego, cabron. On continue avec les dommages collatéraux. Olivier Dussopt, qui vantait la justice sociale de la réforme en disant qu'elle aboutirait à un revenu minimum de 1200 euros pour tous les petits retraités, a finalement avoué que cela ne concernait que les personnes justifiant d'une carrière complète à taux plein sur la base d'un salaire équivalent au SMIC. Cela ne sera donc que 1200 euros brut et cela ne concernera que 10 000 à 20 000 personnes par an. Eh merde, encore raté. Même pas les miettes. Pour vous, il n'y a toujours rien à gratter. Mais vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous remonter le moral. La vidéo de ce même Olivier Dussopt qui clôt les débats de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez, c'est de la bonne. Je vous décris vite fait ce qui s'y passe. Il est face à l'Assemblée nationale. Il commence à parler en bafouillant un peu, avec une voix un peu cassée, en haussant le ton de plus en plus. Le gouvernement saisira le texte au Sénat qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Là, la moitié des gens applaudissent pendant que l'autre moitié se barre en râlant. Il y a le bras d'Olivier Dussopt qui tient les feuilles de son discours qui commence à s'agiter frénétiquement. Il se tourne vers les gens qui partent. Il ne regarde plus l'Assemblée. La veine de son front commence à enfler et sa voix s'emporte. « Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté pendant 15 jours. Vous sortez, mais vous m'avez insulté. » Là, il pointe son doigt, devenu incontrôlable sur les gens qui se barrent et se met à hurler avec la voix d'un adolescent qui mue et qui a trop profité des bonnes choses après une soirée chez Pierre Palmade. « Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué !» Eh ben, voilà, c'est là qu'on en est maintenant. Une première ministre qui s'est tellement enfoncée qu'il va finir par trouver du pétrole, un ministre du Travail en burn-out, seulement après quelques débats avec la France Insoumise. Mais alors, que va-t-il se passer après le 7 mars, les manifestations, les grèves reconductibles, les blocages et la détermination sans faille d'un peuple qui ne veut plus baisser la tête ?
Eh bien, on va s'écouter une petite musique. Ah si, on va s'écouter de la musique, hein, je vous promets.
C'est la merde totale, hein, ce soir. Hein.
C'est parce qu'il y a une longue intro. Par les
lutter avec la police. Avec une carte mobile, les CRS dans les malices. Ça fait qu'il voit l'once dans la péril, et d'ici ça roule. C'est ce qu'elle dit, seul de nos avertis, tu perds dans la foulée. Dans une épreuve, ce soir c'est la guerre. Rendez-vous en enfer. Ce soir c'est la guerre. Rendez-vous en enfer.
C'était une petite musique en prévision de la journée du 8 mars.
Du 7 du déjà 7. Pour commencer.
Ah, du 7. Ça va être 8, 9, 10 fois.
Ouais, ouais. On ne sait pas quand ça commencera à être vraiment l'émeute, quoi. Non, mais bon, bah, attendez, parce que là, on va se refaire un petit coup de Burkina Faso, comme la semaine dernière. Je ne vais pas m'étendre beaucoup cette fois, parce que du coup, la semaine dernière, j'ai fait un peu longuement. Mais entre-temps, dans la ville de Partiaga, donc à l'est du Burkina, la ville de Partiaga, 7000 habitantes et habitants, et cette ville a été attaquée dimanche par les djihadistes. Alors pour le moment, il n'y a pas de bilan en nombre de personnes tuées, alors que l'attaque était dimanche. C'est sans doute un des aspects du problème. C'est sans doute un des aspects de ce même problème qui fait que les FDS, les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, avaient abandonné Partiaga alors que les djihadistes commençaient déjà à assiéger la ville. La seule force de défense qui restait, c'était les fameux VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, une sorte de milice citoyenne sur laquelle le gouvernement donc fonde tout pour reprendre l'avantage sur les terroristes. Alors pour Partiaga, les VDP n'auront pas suffi. Les djihadistes sont donc rentrés dans la ville, ils ont brûlé les bâtiments officiels, ils ont brûlé les concessions, ils ont brûlé les greniers à céréales et ils ont tué tous les hommes qui passaient à leur portée. Beaucoup d'habitants et d'habitantes ont fui dans la ville voisine, la ville de Diapaga. Sans doute 2000 à 3000 personnes sont déplacées sur ce coup-là. Ils et elles ont essayé de faire une sorte de manifestation pour demander instamment aux autorités d'envoyer l'armée pour les protéger. Sans réponse, alors quand je dis sans réponse, c'est en vrai pour ce qu'ils ont eu dans un premier temps comme réponse, c'est que la manifestation a été bien dispersée par les flics. Mais autrement, sans réponse pour le moment. Et c'est bien aucune réponse d'aucune sorte, donc pas un mot de la bouche du président pour le moment. Le Faso.net qui nous décrit la situation dans la ville de Diapaga où sont les déplacés nous dit « Aucun effort n'a été fait pour l'instant par l'État pour accueillir ces déplacés fuyant l'horreur de Partiaga. Ce sont les associations de la société civile et des personnes ressources de Diapaga qui se sont organisées pour recueillir ces déplacés depuis le dimanche. Les gens continuent d'arriver. Ce sont les populations qui ont cotisé pour la prise en charge de ces déplacés, mais cela reste très insuffisant. » Il s'agit entre autres de problèmes d'hébergement, de nourriture, de la prise en charge des maladies, etc. Il n'y a pas de logement pour les accueillir, les gens dorment dehors. Côté alimentaire aussi, c'est très compliqué. Il y a toujours des gens en brousse qui n'arrivent pas à rejoindre les lieux d'accueil, qui se sont barrés quand les djihadistes sont arrivés et qui là ne savent plus vraiment comment faire. Parce que par ailleurs, il y a quelques dizaines de kilomètres entre Partiaga et Diapaga, mais les djihadistes sont toujours à Partiaga ou juste à côté ou juste autour, quoi. Pendant ce temps, le président du mouvement qui s'appelle Sens pour servir et non se servir, c'est un mouvement citoyen un peu dans la lignée de tous ces balais citoyens qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest au début des années 2000. Ce président donc écrit un long texte, toujours sur lefaso.net, pour mettre en garde contre ce qu'il appelle les appels à la haine et à la division. Et on comprend un peu entre les lignes, mais qu'il s'agit par exemple de tous les discours contre les Peuls. Les Peuls qui sont accusés de fournir le gros des troupes djihadistes et qui, pour cette raison, doivent faire face un peu régulièrement à des attaques, des trucs entre pogrom et vendetta. Mais c'est-à-dire que ceux qui sont attaqués, c'est les gens, pour le coup, qui ne sont pas djihadistes, puisque c'est ceux qui sont plus facilement, qu'on peut plus facilement choper, quoi. Et du coup, à l'en croire, ce président du mouvement Sens, ces espèces de discours un peu ethnistes, on pourrait dire, seraient peu condamnés, voire même regardés avec bienveillance par les plus hautes autorités du pays. Et il faut dire que les plus hautes autorités du pays, par exemple le président Ibrahim Traoré, ils sont un petit peu dans la merde devant des événements pareils, puisque du coup ce président Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, est bien arrivé au pouvoir en septembre dernier suite à un coup d'État. un coup d'État qui, à l'époque, était visiblement soutenu par une bonne partie de la population, puisque la population reprochait au président précédent de ne pas arriver à des résultats probants dans la guerre contre les djihadistes. Le président précédent lui-même était arrivé au pouvoir 8 mois plus tôt, suite à un coup d'État, et visiblement soutenu par une bonne partie de la population, population qui reprochait au président précédent encore, celui-là avait été élu, de ne pas arriver à des résultats probants dans la guerre contre les djihadistes. Autant dire que Ibrahim Traoré, il doit commencer à se sentir un petit peu sur un siège éjectable. Le Burkina, par ailleurs, reste un des terrains de la lutte d'influence entre la France, qui vient de se faire enfin foutre dehors comme une malpropre, et la Russie, dont les mercenaires du groupe Wagner seraient peut-être déjà sur place, malgré les dénégations du président Traoré. Alors, pendant ce temps, le président Macron, lui, il fait une grande tournée en Afrique, cette tournée qui nous est présentée comme une tentative de maintenir l'influence salvatrice des Lumières françaises contre, ma foi, l'obscurantisme russe. Depuis au moins 150 ans, la France pille l'Afrique et du coup, certains pays, comme le Mali il y a 2 ans ou le Burkina aujourd'hui, secouent la tutelle et virent dans un premier temps les militaires français. Alors, c'est une catastrophe. À chaque fois qu'on ouvre France Info, par exemple, et que ça en parle, parce que ça n'en parle pas non plus toutes les 30 secondes, puisque c'est l'Afrique, mais on entend bien que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, en vrai, c'est une catastrophe pour la grandeur de la France, pour son accès aux ressources et pour son influence internationale, puisque du coup, ça lui fait moins de pays sous son influence à l'ONU. Mais on aura quand même un peu du mal à nous convaincre que c'est aussi une catastrophe pour l'Afrique. On pourrait même voir ça comme une très bonne nouvelle, juste si on était certain que les militaires français ne risquent pas d'être remplacés par des mercenaires russes qui sont au moins aussi brutaux.
Radio Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des Camions Info du mercredi dans le Camion Info.
Et le camion info est allé faire un tour du côté du Kurdistan turc et a fait une interview à Adiyaman 3 semaines après le séisme, et ça va y parler des incompétences de l'État et de l'approche féministe de la solidarité.
I'm from Istanbul, coming from Istanbul to Adıyaman here after the earthquake and disaster.
Je m'appelle Evrim, je viens d'Istanbul et je suis ici à Adıyaman après le séisme qui a eu lieu ici. Je fais partie du groupe féministe d'Istanbul qui s'est constitué en solidarité avec les victimes du séisme et qui est venu les premiers jours pour comprendre les besoins et ensuite envoyer de l'aide. Je n'étais pas présente pour ce premier contact parce que je faisais partie de l'équipe de secours et recherche des rescapés dès le deuxième jour à Antep. On a commencé à travailler dans les bâtiments détruits. Il y avait des personnes encore en vie et des corps qu'il fallait retirer. J'y ai passé 5 jours et en rentrant à Istanbul, j'ai réalisé à quel point c'était énorme.
How big it was. I wasn't professional in that group. I was only a volunteer, and I was thinking just I will be just handy with some stuff around the world.
Je n'étais pas professionnelle dans ce groupe. J'y suis allée en tant que volontaire, et je pensais que je serais juste une petite main autour du travail des secours. Mais je me suis retrouvée à faire un travail de secouriste professionnel parce qu'en fait, il y en avait besoin. Il n'y avait personne d'autre. Les gens retiraient les corps de leur propre famille, de leurs propres enfants. Je n'arrive même pas à exprimer ça.
Everyone, like, you know, I'm just, I couldn't even process that. Everything was just chaotic and hard. And no.
Tout était chaotique, difficile. L'État n'était pas du tout présent. Quand ils ont commencé à venir, c'était avec des armes pour créer des espaces sécurisés. Il faut savoir qu'on est dans cette région, une partie du Kurdistan, où il y a une forte présence de l'armée tout le temps et pour n'importe quoi. Mais la première semaine, l'armée n'a jamais été utilisée pour apporter de l'aide. On a pu constater que l'État n'était pas du tout prêt. Et pas parce que le séisme était si puissant, il n'était pas plus prêt pour quelque chose de petit, d'après ce qu'on a pu voir les premiers jours. Et ils étaient effrayés, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont le matériel, mais ils ne l'utilisent pas. Ils ne sont pas capables d'organiser, de coordonner, et beaucoup de groupes locaux comme le nôtre ont dû les diriger quand ils ont fini par arriver.
by the experience here from the first day, and they were scared. They were like, they didn't know what to do. They have all the instruments, but they can't use them. They can't coordinate, they can't organize, and at many local spaces, actually, groups like us actually directed them. And also, we can't know, you know, as people of this country, regular people,
nous ne pouvions pas savoir en tant que volontaires civils où sont les villages ou combien il y a d'habitants. Le personnel de l'État sait ça et aurait dû y aller. On n'a aucune idée de ce qu'ils pouvaient bien faire d'autre à ce moment-là. La Turquie est pourtant très stricte à propos de papiers ou de recensement. Ils savent qui on est et où on vit.
They know who we are and where we live. Even in the rescue work, we were leading them or people.
Mais dans le travail de secours, on les orientait ou bien les habitants eux-mêmes leur disaient, il y a ce bâtiment dans ce quartier, on doit aller là. Et leur réponse c'était, ah vraiment? Ah, vous devez organiser les véhicules et tout le matériel qui est nécessaire. Les gens eux-mêmes devaient organiser ça.
And I spent more than 24 hours in the airports on the way to the region.
Et j'ai aussi perdu plus de 24 heures à l'aéroport avant d'arriver ici, avec quantité d'autres équipes de secours internationales assises là, frustrées. Et on se disait qu'on devait être sur place immédiatement. Comment est-ce possible qu'il ne se passe rien pour affréter des vols le plus vite possible? Par contre, l'une des réactions immédiates a été de fermer les universités. Ils ont juste dit que les cours pouvaient se faire en ligne. Et ils ont envoyé tous les étudiants chez eux. Mais il y en a beaucoup dont la région d'origine est ici. Ils n'ont plus de maison dans laquelle revenir. J'ai aussi un enfant de 6 ans et les écoles ont aussi été fermées 2 semaines sans raison.
Oh, we can do it online. Then send back all those students back their hometowns. But there are many, you know, their hometowns are this area. They don't have any house to come back. Also, I have a small child. Those schools were closed for extra 2 weeks as well. Yeah.
Maybe it was just a statement like, we have a very strong hand and we're going to make.
Peut-être que c'était juste une posture, comme dire nous avons la main ferme et nous allons tout stopper pour les victimes. Mais je crois que c'était surtout une posture et pas une solution, et ils le savaient.
Yeah, I'm Bade. I'm coming from Istanbul as well. I'm part of the same feminist solidarity group.
Je m'appelle Bade, je viens aussi d'Istanbul et je fais partie du même groupe féministe de solidarité. On est ici à Adıyaman en roulement parce que l'on a conçu cette solidarité pour le long terme plutôt qu'une action isolée de dons. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner de l'aide et d'ensuite abandonner les gens, mais il s'agit d'être présente et d'accompagner les femmes et les filles qui sont le groupe le plus vulnérable dans ce désastre.
Because women have to, again, you know, go on with the daily basics and everything. There's no house, but all those things related to house.
Parce que les femmes doivent continuer les tâches quotidiennes. Il n'y a pas de maison, mais toutes ces choses domestiques sont aussi là dans les tentes ou dans la rue, et les enfants et tout le reste. Et c'est aussi une question d'approche. Il y a l'armée dans la rue, et les femmes ne peuvent pas vraiment parler de leurs besoins de base. Il n'y a plus non plus d'école ici, et ça sera sûrement le cas assez longtemps. Les enfants sont très affectés, bien sûr. Mais donc, ils sont aussi en permanence avec leur famille, et c'est un poids de plus sur les femmes.
So yeah, children are affected badly because of that as well, but also it gives more weight on women again.
Because women's success are always always considered as luxury.
L'émancipation des femmes est toujours considérée comme un luxe, ce qu'elle n'est certainement pas. Donc c'est ça que l'on est en train de perdre dans un contexte de catastrophe. Ce que l'on risque de perdre, c'est pourquoi une approche féministe est si importante.
There is this strong feeling and sense that they have been abandoned.
Il y a ce sentiment très fort qui ressort qu'ils ont été abandonnés, même en ville, dans les quartiers proches du centre. Les gens disent que l'aide ne vient pas, et c'est d'autant plus le cas pour les Roms et les réfugiés syriens. Une femme m'a demandé de lui rapporter une cuillère. On est dans cette situation où, en ville, 3 semaines après le séisme, une personne n'a pas même de cuillère.
These cities are actually normally, before this, you know, was lively places, and as we understand, the.
Les villes étaient assez peuplées avant le séisme, et ceux qui en avaient les moyens sont partis dès la première semaine. Le centre-ville est déserté. Il y a ces bâtiments en ruine partout. Il y a du mouvement, mais c'est très faible. Et en fait, seuls les plus pauvres sont encore là. Dans les villages, c'est différent. Ça a l'air mieux quand on regarde comme ça parce que l'on ne voit pas beaucoup de destruction. Mais quand on commence à parler avec les gens, par exemple, dans un des villages qu'on a visité aujourd'hui, c'est un village de 70 maisons, mais le nombre d'habitants a triplé depuis le séisme.
In the villages, it is different. It seems much better when you look at, because you don't see, you know, the damage when you look at first. But when you start to talk, for example, the one of the villages we visited today is a village of 70 houses. But there were the family amount of families are living is tripled. At the moment,
it's going to be quite hard for them. We were trying to distribute one box per one household.
Ça va notamment être difficile pour les femmes dans les villages. On essaie de distribuer une boîte de produits d'hygiène par foyer, mais les foyers sont maintenant parfois composés de 20 femmes. Et on parle d'une région où les foyers sont déjà nombreux, donc même si de l'aide arrive, ça ne sera jamais assez.
My name is Livan. I am from Mardin, which is the city of Kurdistan.
Je m'appelle Livan. Je viens de Mardin, une autre ville du Kurdistan, mais qui n'a pas été touchée par le séisme. Je suis à Adiyaman depuis une semaine ou 10 jours. Je suis aussi membre de l'Assemblée des jeunes du HDP, le parti de gauche pro-kurde en Turquie. Ici, on a organisé 3 lieux de stockage pour l'aide matérielle. On a aussi un campement d'environ 60 tentes, de familles kurdes, mais aussi quelques réfugiés syriens. Ce n'est pas coordonné uniquement par le HDP, mais par différentes strates de la société civile, des communautés, des syndicats, des volontaires, en tout cas des gens plutôt à gauche. Les promoteurs des bâtiments qui ont été construits ici sont majoritairement des soutiens d'Erdogan. Donc il a fait, après, beaucoup d'amnisties sur des constructions illégales. À cause de ça, toute la ville est détruite. Tout le monde sait que la Turquie est une zone à risque sismique, donc le gouvernement devrait faire plus attention à ça. Il fallait construire des bâtiments avec des normes particulières, mais ne l'ont pas fait. Quand ils parlent du séisme, ils disent que c'est la malchance, avec une sacrée rhétorique religieuse. Quant à la FAD, l'autorité de gestion des catastrophes et des urgences, qui est sous la tutelle du Premier ministre, on ne sait pas où ils étaient. La seule chose qu'ils ont faite immédiatement, ça a été de créer un numéro de téléphone pour envoyer des dons. Et ils ont rejoint la région 4 jours après le séisme. Il y a une taxe spéciale pour financer la gestion des séismes, donc ils devraient être là. De partout dans le monde, des camions sont partis en solidarité pour le peuple kurde et le gouvernement les a arrêtés, ne les a pas laissés venir jusqu'ici. La raison, c'est qu'ils ne veulent pas être perçus comme faibles, impuissants, incapables de gérer la situation.
They're all handmade tents, and because of the government captured our tents,
Tu vois là dans le camp, nos amis ont fabriqué des tentes eux-mêmes avec des bâches, parce que le gouvernement a confisqué, volé en fait, les tentes que l'on avait achetées avant qu'elles arrivent ici. Ils essaient de contrôler toute l'aide qui arrive. Aussi, ils nous connaissent en tant que parti pro-kurde d'opposition, donc ils ne nous laissent pas être aux côtés de la population parce que quand on aide, ils vont perdre des voix. Alors qu'à Adıyaman, les votes vont majoritairement à Erdogan. Un autre exemple de la répression que le gouvernement met en œuvre, à Malak, un centre à Lévis était occupé par nos amis, puis Afad est arrivé et les a mis dehors. Ils ont mis la même pression sur le centre à Lévis d'Adıyaman qui acceptait qu'on l'utilise comme entrepôt. À Malak, maintenant, la population dit qu'ils n'ont pas accès aux soins ni à l'aide matérielle après que l'Afad se soit installé.
And he made the control of there. But still, the village people say that we cannot get a house, we cannot get the stuff or anything else after the state is here.
Probably they're gonna take us out of here, and they're gonna want.
Ici, ils vont probablement nous éjecter du camp que l'on a construit, puisqu'ils sont en train de construire un camp juste en bordure d'une autre. Et la police vient aussi très souvent, ce qui sont en fait des tentatives d'intimidation.
We are here.
They're trying to frighten us and they scare us.
Écoutez.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Et on va faire un tour du côté de Calais pour commencer avec, eh bien ça vous le savez, l'interdiction de la distribution des repas qui avait été retoquée par le tribunal administratif il y a de ça quelques mois. Mais bonheur de l'intelligence humaine, la mairie a trouvé une solution. Et cette solution a eu lieu ce mercredi matin. Des rochers ont été déposés dans le centre-ville de Calais, aux abords d'un quai, là où se trouvait un lieu de distribution. Alors, en plus de distribuer de l'eau potable quotidiennement, les associations assuraient une distribution de nourriture le week-end également. Chaque jour, c'était une trentaine de personnes qui venaient ici pour trouver de l'eau potable et de la nourriture le week-end. Des personnes avaient trouvé refuge sous un pont dans l'alignement du quai. L'accès y est désormais bloqué. Cynisme absolu. La cuve d'eau potable est toujours sur place, laissée par les services de la mairie, mais son remplissage est désormais impossible. Info Migrant rappelle que cette installation n'est pas la première. En septembre, des centaines de rochers avaient été déposés, là encore, sur un quai près de la gare, pour la maudite somme de 45 000 euros. D'un point de vue comptable, c'est peut-être plus la politique anti-migratoire qui coûte le plus cher.
Écoutez.
Non, pas du tout ce générique, disons, ce soir. Et on va faire un tour du côté de la frontière gréco-turque. Et quelle est la réponse 1 bis de l'Europe face au séisme qui a eu lieu en Turquie après le déblocage, certes, de fonds et d'envoi de secouristes? Eh bien, c'est le renforcement des contrôles à la frontière avec la Grèce. Le ministre de l'Immigration a prévenu, je le cite, « Le mouvement massif de millions de personnes n'est pas une solution. » On le remercie de donner son avis sur la question. Il a dans le même temps confirmé la poursuite de la construction du mur séparant les deux pays. Alors, si le séisme entre la Turquie et la Syrie a fait plus de 50 000 morts, il a quand même laissé 1,5 million de personnes sans abri, d'après l'ONU. C'est donc sachant ça que le ministre de l'immigration grec agite le drapeau rouge de la submersion migratoire, qui pourtant n'a jamais eu lieu. À ce sujet d'ailleurs, je vous conseille l'écoute de l'émission Sans oser le demander du 4 janvier, qui a pour titre « Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'est-ce qu'on avait pour avoir autant de poncifs sur l'immigration et qui est très clair sur le sujet. C'est aussi pour lui un moyen.
L'émission sans oser le demander, qui est pas une émission de Radio Canut, qui est une émission.
Oui,
de France
Culture. qui est une émission de France Culture. Tout à fait. C'est aussi pour lui un moyen de faire pression sur l'Europe pour qu'il finance le doublement du mur qui fait actuellement 27 km et qu'il souhaite doubler donc à la fin de l'année, tout en précisant que peu importe la décision de l'Union Européenne, le mur sera fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a peu de chances que l'Union Européenne lui dise d'accord en finance, surtout que pour le moment, l'Union Européenne est assez réticente à financer des murs. Elle veut bien financer des barbelés, des drones, des caméras thermiques, des canons à ultrason. Bref, elle veut bien financer. Mais les murs, symboliquement, je pense que ça passe mal, alors elle ne le fait pas. Ce mur sera, je vous rassure, aussi accompagné de technologies de pointe comme des drones, des caméras thermiques, blablabla. Pour le directeur du Conseil grec pour les réfugiés et ancien vice-maire d'Athènes en charge des questions des réfugiés, autant dire quelqu'un qui s'est un peu creusé la tête sur ces questions-là, je le cite, ce sont des choix déjà vus et qui sont toujours inefficaces, ils font des choix qui s'adressent à l'électorat et qui ne répondent pas à la vraie question. Bon, on ne sait pas quelle est vraiment la vraie question qui veut se poser, mais... Et on va quand même un tout petit peu parler du naufrage qui a fait 40 morts sur les côtes italiennes le 27 février, même si ça a été largement commenté dans l'actualité. Ce qu'il a été un peu moins, c'est ce qui aurait pu éventuellement, en tout cas qui a des chances d'avoir, qui aurait pu éviter ce naufrage. Les autorités italiennes ont imposé dans la soirée du 23 février au navire humanitaire le Geo Barents de MSF, donc c'est-à-dire 4 jours avant le naufrage, de rester à quai pendant 20 jours, ainsi qu'une amende de 10 000 euros pour le capitaine. Pourquoi une telle mesure? L'équipage n'avait pas fourni toutes les informations demandées après leur débarquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû cocher la case du formulaire 352-4 et de l'alinéa 5. Donc voilà, c'est pourtant dans la localité du naufrage que le bateau est retenu. Hier, le décret controversé sur les opérations des services des navires humanitaires en Méditerranée a été converti en loi après le feu vert du Sénat. Cette mesure oblige les ONG à demander immédiatement, après avoir effectué un sauvetage, l'attribution d'un port sûr, ce qui les contraint à faire un sauvetage unique par sortie, entravant donc leur possibilité de sauvetage. On a quand même plusieurs fois parlé ici, mais vous voyez, en gros, les bateaux font des sorties, naviguent, portent secours à des personnes. Si on leur signale un autre bateau, ils vont aller chercher plus loin, et ce, jusqu'à ce que le bateau soit un peu plein, ou qu'en tout cas, les conditions météo font que c'est plus un moment à risque. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs qui font qu'en général, ils essayent de rentabiliser leur sortie pour tenter de sauver un maximum de personnes à chaque fois. Donc là, c'est bien le but du gouvernement, c'est bien d'empêcher ça, que à chaque fois qu'il y a un retour à quai, ça veut dire, même si comment on appelle ça, les autorités italiennes ne bloquent pas administrativement le bateau, ce qu'ils font de plus en plus et ce qu'ils continuent de faire, mais il y a aussi tout un tas de trucs techniques à faire quand un bateau est à quai avant qu'il reparte, ce qui n'est pas le cas quand le bateau est en mer. Bref, donc le but est bien entravé. MSF a déclaré, je les cite, le fait d'avoir un port sûr est aujourd'hui instrumentalisé dans le but qu'il y ait moins de capacité de sauvetage en Méditerranée. Pour eux, MSF, le but du gouvernement d'extrême droite italien est clair, entraver l'assistance à des personnes en détresse et maintenir les navires hors zone de sauvetage pendant de longues périodes. C'est ce qui s'est passé avec le Geo Barents et on voit ce que ça a donné 4 jours plus tard. Et on a fini.
Non,
on n'a pas fini.
Non, on n'a pas fini. Moi, je voudrais juste annoncer, sauf si on peut faire un petit point agenda, si quelqu'un a prévu de faire un point agenda ou pas.
Vas-y.
Alors moi j'ai juste deux petits trucs qui sont pas annoncés sur Rebellion. Alors il y aura ce vendredi au Palais du Travail de Villeurbanne à partir de 19h30 une soirée sur le thème du massacre qui a eu lieu à Cizre, ville kurde de Turquie, en 2015. Et comme intervenante, il y aura notamment Leyla Imret, qui était la commère de Cizre à l'époque où ce massacre s'est passé, et qui est aujourd'hui réfugiée politique.
Commère, ça s'écrit C-O-M-I-R-E.
Oui, elle était mère.
Commère.
Oui.
Je te remercie, merci de cette précision. Elle était maire avec, comme le fait le parti de HDP extrême gauche, il met toujours un mec, une meuf en tant que maire. Et du coup, voilà, elle était co-maire de cette ville. Elle est aujourd'hui réfugiée en Allemagne. Et il y aura aussi Nurcan Baysal, qui est activiste kurde des droits de l'homme et qui habite toujours en Turquie et à Diyarbakir, malgré les risques, et qui viendra aussi en parler. Et le lendemain, à la bibliothèque de la Part-Dieu, il y aura, et ça je pense que c'est à partir de... Je vous dirai l'heure après. Le lendemain, à la bibliothèque de la Part-Dieu, il y aura un film sur le génocide des Yézidis avec la même intervenante des droits de l'homme, Nurcan Baysal, et une autre femme qui vient de Turquie et qui est spécialiste des traumatismes, etc. Voilà, alors l'heure, je la trouve pas. En tout cas, c'est sur le site de la bibliothèque municipale bibliothèques municipales de Lyon. Et alors, attendez, ça y est, j'ai l'heure. Alors, attendez, l'heure.
En direct, en
l'heure. Alors.
Alors, il a l'heure, mais pas, il n'y a pas tout à fait l'heure. Bah, pendant que tu trouves l'heure, on peut dire que vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur l'agenda de rébellion. Il y a quand même plein d'AG par rapport au mouvement en cours. Il y a une AG qui est ici actuellement, par exemple, du secteur des arts et de la culture. Il y a une AG étudiante de Lyon 2, donc on imagine que c'est à la fac de Bron, jeudi 2 mars à midi. Et il y a plein de rencontres organisées par Lyon Info Migrants. Voilà. Et bon, ça vaut le coup d'aller se renseigner. Je pense que c'est assez chouette.
Alors, je vous dis, l'heure n'est pas marquée, mais je pense que c'était 15h30. Et le titre du film, c'est justement « Là-bas, quelle heure est-il ?» le génocide des Yézidis. Voilà. Bien. Angels of Sinjar. Voilà.
Eh bien, c'est 19h48, c'est l'heure pour nous de nous quitter. On vous laisse avec 10 minutes de bande continue et après vous retrouverez Idée Noire. Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.